France Culture.
Ces derniers mois, les messages d'alerte se sont multipliés vis-à-vis de l'état de l'économie des pays membres de l'Union européenne sur fond d'instabilité politique, dérapage budgétaire pour les uns, décrochage industriel pour les autres et plus généralement un manque de compétitivité pour tous, comme l'a souligné entre autres le rapport de Mario Draghi, publié en septembre dernier. Un pays, en revanche, semble mener sa barque et porte désormais une grande partie de la croissance européenne. C'est l'Espagne qui a connu une croissance de 3,2% de son PIB en 2024. Alors les raisons sont nombreuses et le dynamisme peut être à nuancer, mais un secteur en particulier est mis en avant pour expliquer cette remontée, le tourisme qui représente un peu plus de 13% de son PIB. Or, une région, une ville se distingue particulièrement, l'Andalousie qui a accueilli 36,2 millions de voyageurs en 2024, soit une augmentation de 5,5% et donc un record historique pour la région. Et puis évidemment, sa capitale, Séville, qui est la troisième ville la plus visitée d'Espagne avec 3,5 millions de visiteurs en 2024, visiteurs qui n'étaient que 2,5 millions en 2021. Or, ce succès n'est pas le fruit du hasard, c'est en réalité l'aboutissement d'une histoire longue qui est celle de l'élaboration d'une véritable stratégie pour rendre attractives des villes qui n'ont pas forcément accès à la côte et donc aux plages. Séville, modèle du succès du tourisme urbain, a construit son économie touristique sur la diffusion d'un imaginaire qui lui est propre, mais aussi sur une politique de planification du développement touristique, infrastructure, reconnaissance culturelle, adaptation aux attentes des touristes. Le modèle sévillan en est-il vraiment un? Car derrière les chiffres qui ne devraient pas cesser de battre leur propre record, puisque 37 millions de touristes sont attendus en Andalousie en 2025, c'est tout un paysage qui se transforme et une population qui en subit les conséquences. De quoi créer de fortes tensions dans un contexte administratif et politique qui n'en manque pas lui-même. À Séville, la planification touristique est vraiment un modèle pour l'économie espagnole? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui dans cette émission programmée et préparée par Tina Young, réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde aujourd'hui par Grégory Wallon. Et deux invités sont avec nous aujourd'hui. Yvan Gallon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en études hispaniques à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Vous avez mené un certain nombre de travaux qui étudient justement le développement du tourisme à Séville. Dans le sillage de votre thèse intitulée « Séville dans les guides de voyage français et espagnol 19e-20e siècle ». En studio également avec nous, Nassima Baron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe, professeur à l'Université Gustave Eiffel et membre de l'Institut Universitaire de France. Vous avez coécrit avec Barbara Loyer, l'Espagne en crise, avec un S entre parenthèses à la fin de crise, une géopolitique au XXIe siècle, un ouvrage paru chez Armand Collin. Alors Nassima Baron, les chiffres de la comptabilité espagnole ont été publiés le 29 janvier dernier, qui font le bilan de l'année 2024. On apprenait donc, je le disais, que le pays a connu une croissance de son PIB de 3,2%, soit un rythme 4 fois plus rapide que la moyenne européenne, selon le ministre de l'économie, du commerce et des entreprises Carlos Cuerpo, et 40% de la croissance européenne vient d'Espagne désormais. Dans quelle mesure est-ce exceptionnel, Nassima Baron? Dans quelle mesure est-ce une surprise en soi, ces chiffres pour 2024?
Vous avez raison de les souligner. Ces chiffres, ils sont vraiment, ils montrent une euphorie de la part des acteurs du tourisme, des acteurs de l'économie espagnole. Ils sont une surprise d'abord pour les partenaires européens qui avaient un petit peu gardé dans leur esprit que l'Europe du Sud, Grèce, Espagne, Italie, avaient vraiment vécu des moments très difficiles lors de la crise de 2008. Et évidemment, avec la pandémie, le tourisme a eu aussi vraiment un recul important, et donc était resté sur une idée un petit peu misérabiliste et n'avait pas vu remonter finalement après la pandémie ces chiffres du tourisme petit à petit jusqu'à, inquiéter, dépasser. La France, bien entendu, est aussi un très grand acteur touristique. Donc c'est quand elle commence à se faire doubler qu'elle commence à s'inquiéter. Mais je pense que c'est pas tellement une surprise pour ceux qui suivent cette dynamique économique depuis longtemps. Et je dirais aussi que quand on parle de ce triomphe touristique de l'Espagne, en fait, de ces moments de croissance accentuée comme celui dans lequel nous vivons, on utilise un vocabulaire, on rentre un petit peu dans un schéma de pensée qui est cette Espagne, Californie de l'Europe, Sunbelt, tourisme, plage, une espèce, un modèle économique. Mais en fait, on réutilise des représentations qui ont eu cours à plusieurs moments dans l'histoire de l'après-guerre. Et on reprend un certain nombre de... Alors, cliché, c'est peut-être un petit peu extrême, mais il y a une espèce de prêt-à-penser. Donc, on va essayer d'en parler, mais aussi de, sans doute de prendre quelques distances. Parce que, évidemment, tout est un petit peu plus compliqué. Et puis, chaque nouveau décollage s'inscrit peut-être dans des contextes qui sont évidemment pas les mêmes que 20 ans ou 40 ans avant.
Et qui sont très spécifiques, effectivement, absolument, à ce qu'on connaît
contexte.
Actuellement.
Et pas simplement national. Alors, vous avez parlé, on va parler localement de Séville, l'Andalousie, du niveau national. Et je voudrais juste montrer aussi que l'industrie touristique européenne ou méditerranéenne, elle est inscrite elle-même dans des dynamiques globales. Si on a une croissance de destination, c'est qu'il faut regarder où les autres destinations sont moins attractives aussi, et qu'on a des effets comme ça de spillover.
De vaste communication.
Voilà. Donc, c'est vrai que la Tunisie ou la Turquie, qui ont longtemps été des grandes destinations touristiques méditerranéennes de sol et playa, sont aujourd'hui peut-être moins présentes dans l'esprit de la clientèle. Alors, c'est peut-être un facteur dont on va moins parler, puisqu'on va parler de causes intrinsèques à l'Espagne, mais il n'y a peut-être pas que des causes intrinsèques.
On a beaucoup parlé du tourisme, parce que c'est notamment ce qui porte, entre autres, l'économie espagnole, on l'a dit, entre 13 et 13,5% de son PIB, tourisme qui lui-même a battu certains records en Espagne en 2024, puisqu'on le disait, l'Espagne a reçu 94 millions de voyageurs internationaux cette année-là, c'est 9 millions de plus que l'année précédente. Donc là, on reprend cette idée de vaste communicant qu'on évoquait à l'instant, Nassima Baron, et surtout, ces touristes qui viennent en plus grand nombre dépensent davantage, ça aussi, ça a apporté l'économie espagnole. Mais Nassima Baron, est-ce qu'il faut s'arrêter là? Alors, on ne va pas faire le panorama global, mais est-ce que vraiment, aujourd'hui, c'est le tourisme, grâce à ces chiffres notamment, qui porte le dynamisme et la croissance espagnole?
Alors, les observateurs, les analystes financiers, bancaires, économiques en Espagne développent des segments comme ça dans la croissance. Donc, ils ont Q1, Q2, enfin voilà, on a un petit peu regardé ça. Ce qu'ils ont regardé, c'est que c'est par exemple une locomotive pour l'emploi, parce que c'est un secteur à forte valeur en termes d'emploi, et que cet emploi, il est disponible parce que, par exemple, l'Espagne a une politique assez ouverte vis-à-vis de la main-d'œuvre étrangère. Alors, on revient sur un sujet évidemment européen très très chaud en ce moment, mais là, les acteurs financiers montrent bien que les limites peut-être au potentiel de croissance d'un certain nombre d'économies touristiques importantes en Europe, et aussi peut-être dans d'autres pays un peu freinés, justement par cette difficulté de faire face à une manœuvre étrangère, sachant, alors ça renverrait à des problématiques autour de ce qu'on fait de l'immigration en Espagne, qui n'est pas que africaine, qui est sud-américaine ou centre-américaine. Je lisais dans les journaux, ça concerne Madrid, mais qu'un habitant sur 8 est sud-américain, avec beaucoup de mariages croisés, et qu'il y a c'est vrai qu'il y a une présence aujourd'hui des différentes nationalités en Espagne, ou plus spécifiquement dans ces villes touristiques importantes ou cosmopolites, qui produit même peut-être un effet attractif pour le tourisme international. C'est-à-dire que ces villes cosmopolites, internationales, multiculturelles, qui montrent une certaine paix urbaine, convivialité, c'est quand même un magnet, vous voyez, c'est quand même un attracteur. Et là, je fais le lien entre les mobilités internationales et cette mobilité internationale particulière qu'est le tourisme, mais qui a plein de segments. Après, est-ce qu'un étudiant qui vient en Erasmus, c'est un touriste? Est-ce qu'un retraité qui vient pour bénéficier, je sais pas, d'un lifting ou d'une autre type de soins médicaux, c'est un touriste, etc. Et nous, du côté de la recherche, on commence à articuler, à sortir le tourisme d'une espèce de segment, de silo, et essayer de voir comment finalement il se rattache. Enfin, les success stories finalement de destinations touristiques aujourd'hui, c'est pas simplement mettre le maximum d'hôtels sur une plage, mais c'est beaucoup plus finalement réfléchir à la manière dont ça travaille la société, ça travaille la culture, ça travaille l'espace urbain et public. Et ça, c'est pas pour vous dire que ça se passe forcément très bien en Espagne, mais c'est pour essayer d'enfermer un petit peu cette thématique qui sinon va être d'une économie un peu froide, vous voyez ce que je veux dire.
Et on comprend que c'est un enjeu d'image aussi et d'imaginaire aussi qui est renvoyé de façon très générale à travers effectivement ce segment du tourisme, effectivement il y a tout un projet de société derrière, vous nous le dites, Nassima Baron. Yvan Galland, je reprends ce fil de cette idée d'une surprise potentielle liée à ces très bons chiffres de la croissance portée entre autres par le secteur touristique. On l'a vu, c'est essentiellement lié notamment à un rebond post-Covid-19 qui avait de fait largement affaibli les flux de voyageurs et de visiteurs. Il n'empêche que ça reste assez structurel, 13,5% du PIB. On se doute bien que ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Très concrètement, depuis quand l'Espagne a conscience que le développement de son économie passe par le développement du tourisme ?
Ça remonte au début du XXe siècle. En fait, le tourisme est passé d'être un levier d'entrée de devises à un moteur, voire à un pilier de l'économie, comme on l'a dit. Au début du XXe siècle, il y a des textes qui sont publiés dans lesquels on explique que le pays pourrait et devrait tirer profit de la venue des touristes et de faire donc de cela un moteur économique. On a souvent, on cite souvent un texte un peu fondateur de 1903 d'un entrepreneur de Majorque qui s'appelait Bartolomé Amengual, et son ouvrage, son texte assez court, s'intitulait « La industria de los forasteros », l'industrie des étrangers. Donc à partir de là, les institutions, le pays a pris en charge, il y a eu une volonté de prendre en charge de façon institutionnelle le tourisme, d'un point de vue national, mais aussi d'un point de vue local avec des offices de tourisme, etc. D'un point de vue national, c'est surtout à partir de 1911... alors, il y a une tentative avant en 1905, mais ça marche pas vraiment. Donc c'est plutôt 1911 jusqu'en 1928, il y a une première institution qui est le Commissariat Royal du Tourisme, qui est dirigé par un marquis, qui s'appelle le marquis de la Vega Inclán, qui a d'ailleurs une relation forte à Séville. On dit qu'il avait une maîtresse à Séville, donc qu'il aurait facilité l'aménagement touristique aussi de la ville, parce qu'il était souvent là-bas. Et en fait, à partir de ce moment-là, les institutions vont se succéder au fur et à mesure des étapes de l'histoire que je pourrais évoquer rapidement après, mais les missions sont toujours les mêmes. Répertorier le patrimoine et le protéger, améliorer les infrastructures, notamment les transports et l'hôtellerie, qui étaient un peu... souvent critiqué depuis les pays étrangers. Et enfin, promouvoir le tourisme, donc avec des affiches, des guides, des prospectus. On parlait même de propagande. Cette institution-là a eu des problèmes de budget. Elle a donné lieu ensuite, en 1928, patronat national du tourisme, qui a lancé, entre autres, la chaîne d'hôtels d'État Paradores, qui existe encore aujourd'hui. Ensuite, évidemment, le XXe siècle, il y a eu la guerre civile. Donc, on pourrait penser que le tourisme s'est arrêté, mais finalement, non. Et le tourisme, plus qu'un moteur économique, est devenu un instrument politique. Il y avait des routes de guerre qui étaient organisées pour montrer les avancées du camp franquiste. Donc, c'était vraiment politique. Et puis ensuite, on arrive à la dictature franquiste, où là, on peut signaler deux grandes étapes. Une première étape d'autarcie dans les années 40. Et ensuite, à partir des années 50, une ouverture politique à l'international qui donnera lieu au tourisme sol y playa, les capitaux étrangers qui arrivent. Et on parle parfois en Espagne entre 1959 et 1973 du miracle économique espagnol.
Et on va revenir en détail sur ce modèle sol y playa en comparaison, on va dire en effet de miroir, avec un modèle beaucoup plus centré sur des villes qui, je le disais, n'ont pas accès de fait forcément aux côtes, même si elles sont nombreuses en Espagne. Il y a des villes qui sont beaucoup plus ancrées, beaucoup plus loin dans les territoires et qui de fait doivent bien actionner d'autres leviers d'attractivité. Donc on va voir comment, et c'est le cas de Séville, elles se débrouillent justement pour faire face à ce défilage géographique, tout simplement, de localisation. Nassima Baron, il y a une dernière question que je voulais vous poser par rapport à cette croissance qui, on le voit, est organisée depuis très longtemps, depuis les tout débuts du XXe siècle. On le comprend, ces 13,5% de PIB que représente le secteur touristique dans la croissance espagnole, ils ne viennent pas de nulle part, ils sont le fruit d'une construction, d'une institutionnalisation aussi de la prise en compte de ces enjeux économiques-là. Dans quelle mesure aujourd'hui l'Espagne se pose la question aussi de savoir comment alimenter beaucoup plus la demande intérieure ? Et je vous pose la question notamment parce que le 10 février dernier, le gouvernement espagnol a acté l'augmentation de 4,4% du salaire minimum. C'est la septième hausse décidée sous l'exécutif social. socialiste depuis son accession au pouvoir en 2018. Finalement, quel lien peut-on faire entre cette politique-là et un éventuel dynamisme de l'économie lié de fait à la demande? Est-ce que, au-delà du secteur qui est touristique, qui implique une forme potentiellement de dépendance finalement vis-à-vis de devises, mais aussi de capitaux qui viennent de l'extérieur, est-ce qu'il y a cette volonté d'alimenter aussi cette demande intérieure, Nassima Baron?
Ah oui, certainement, et pas récemment. Enfin, les mesures en termes de pouvoir d'achat, vous avez raison de les citer, parce que justement, ces analystes bancaires aujourd'hui considèrent que cette croissance forte, plus forte que la moyenne en Europe, elle va continuer d'être tirée par la demande intérieure. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre, c'est pour ça qu'un voilà, le gouvernement socialiste met du feu dans la cheminée, parce que ça va mieux tirer, voilà. Mais je voulais dire sur ce qui vient d'être dit, ce qui est évidemment tout à fait juste, hein, sur l'historique et sur l'institutionnalisation dont vous parlez. Ce que cette histoire montre, c'est la capacité d'interaction positive des acteurs économiques et des acteurs institutionnels. Alors, dans ce miracle des années 60, il y a un ministre de Franco qui s'appelle Manuel Fraga, qui est un ministre d'une longévité au Parti populaire espagnol, qui l'a duré jusque, voilà, il y a peu de temps, hein. Donc c'était vraiment, vous avez des années 60, vous voyez le parcours au sein du Parti populaire. Il c'était un Galicien. Et il a vraiment constitué, vraiment, je sais pas si dans la mémoire populaire, vous avez les grandes affiches Sol y Playa d'Espagne, de cette propagande, hein, qui a été très puissante à l'extérieur, Arturo de Osborne et tout ce qui a été construit pour constituer une identité espagnole et en faire vraiment un point de référence avec un appui autour de la culture, le flamenco, etc. Hein. Donc à la fois la dimension européenne, mais la dimension très, très différenciante du produit Espagne. C'est pas n'importe quelle plage, hein. C'est pas Antalya ou Hammamet, hein. C'est, vous allez, il y a du soleil, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses.
Ça faisait partie d'ailleurs du marketing des campagnes, de marquer la différence espagnole.
Ça me permet de répondre aussi quand même à votre question, puisque demande intérieure, on pourrait se dire, les Espagnols, ils connaissent, est-ce que c'est des éléments pour lesquels ils vont avoir aussi une demande, une consommation? Alors, écoutez, c'est pas d'hier que beaucoup d'Espagnols ont une résidence secondaire. Et là, il faut quand même un petit peu parler de la dimension immobilière. C'est une seconde économie, mais elle est tellement encastrée dans la dimension économie touristique que, voilà, il faut qu'elle arrive au début de cette émission, sinon on sera pas vraiment bien équilibré sur nos deux jambes. Donc, d'une part, effectivement, quand il y a croissance touristique, il y a le bâtiment, redémarre, ou en tout cas, il y a des pressions autour de l'immobilier. Cette politique de croissance et de confortation de la demande touristique, elle s'est basée sur la croissance immobilière et l'idée déjà de faire acquérir donc des résidences secondaires ou des formules de timeshare, etc., aussi bien à des Espagnols qu'à des étrangers. Et puis je terminerai, juste pour vous répondre, que depuis très longtemps aussi, les retraités espagnols ont droit, via l'IMSERSO, à des vacances en janvier, c'est-à-dire qu'il fallait remplir les hôtels de Benidorm et d'ailleurs en saison creuse. Et c'est comme si la sécurité sociale envoyait les retraités français, ça serait sympathique, hein. On pourrait y réfléchir. Donc là ça marche tout. Ces programmes, ils fonctionnent encore, hein, parce que c'est institutionnalisé. C'est peut-être, ça montre effectivement que des politiques touristiques institutionnelles sont présentes depuis très longtemps. En Espagne.
Yvan Galland, il y a effectivement presque une organisation du temps qui s'institutionnalise en fonction aussi des impératifs du tourisme. Il y a une forme de désaisonnalisation, si on peut le dire comme ça, du tourisme. C'est aussi cela qui fait le succès ou qui porte aussi le secteur touristique en Espagne aujourd'hui.
Oui, mais enfin, désaisonnaliser le tourisme, c'est vraiment un défi depuis le début de ces institutions touristiques, parce que évidemment les mois d'été,
c'est la
côte est envahie. Dans le cas de Séville, c'est différent, c'est plutôt d'octobre à juin, mai. Donc là, on n'est pas sur les mêmes problématiques. Et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, en fait. À côté de ce modèle du boom touristique Sol y Playa qui s'étend de la Costa Brava à la Costa del Sol, au Baléares, aux Canaries, il y a un autre tourisme en Andalousie qui est donc dans les villes intérieures, qui est différent de ce modèle fordiste dont on parle, qui vient de ce goût pour l'Andalousie très ancien et qui fait que que les deux modèles de tourisme cohabitent.
Alors, on va voir comment ces deux modèles, finalement, parviennent à cohabiter et puis comment l'un se construit aussi en parallèle de l'autre, qui correspond à un moment politique beaucoup plus déterminé. On a commencé à le dire, ce qu'on comprend en tout cas. Et puis là, il faut nous rapprocher effectivement de la spécificité de l'Andalousie en tant que territoire, en tant que tel. C'est que l'ensemble de l'économie espagnole affiche de très bons chiffres dans le secteur touristique, même si ces derniers sont peut-être à nuancer aussi au regard de la recomposition de l'économie espagnole dans son ensemble. Mais quoi qu'il en soit, le facteur qui ressort, c'est celui du tourisme, et à plus forte raison dans certaines régions, donc comme l'Andalousie.
Pedro Sánchez, président du gouvernement espagnol, le 24 janvier 2025.
Es como consecuencia de cómo estamos mostrando todos esos valores.
Aujourd'hui, nous pouvons dire avec fierté que le secteur du tourisme est l'un des moteurs de notre croissance. Plus d'un quart de cette croissance s'explique par le tourisme.
Más de la cuarta parte de ese crecimiento.
Une industrie qui croît plus de deux fois plus vite que l'économie générale. Si l'on considérait l'économie espagnole comme un Airbus A380, je ne doute pas que l'un des quatre moteurs lui permettant de prendre son envol serait le secteur du tourisme.
Arthur Bernal, ministre du Tourisme de l'Andalousie, le 10 février 2025.
Il s'agit d'un tourisme basé sur les expériences, sur notre essence, sur la culture, sur notre patrimoine naturel, sur notre patrimoine monumental, sur notre patrimoine écologique également. En d'autres termes, un tourisme basé sur ce que nous sommes. Toute destination a des plages, des hôtels, des terrains de golf, des monuments, c'est vrai. Mais pourquoi certaines destinations sont-elles différentes des autres? La réponse se trouve chez Antonio, Luis, Marie-Carmen et Louisa, c'est l'âme andalouse qui fait la différence. C'est là que nous devons travailler et être conscients que le citoyen andalou est une part indissoluble, indispensable de cette relation, de cette équation touristique qui nous donne ce succès sur les marchés.
José Luis Sanz Ruiz, le maire de Séville, le 8 mai 2024.
Je suis totalement favorable à l'instauration d'une taxe touristique. Lorsque vous êtes entré ici, vous avez vu combien de personnes viennent visiter ce monument, vous avez vu la file d'attente dans la cour des drapeaux, vous avez vu l'affluence sur la Plaza del Triunfo ou sur la Plaza de la Virgen de los Reyes. Eh bien, je suis totalement pour que ce visiteur, qui vient dans cette ville unique au monde, contribue au maintien de son centre historique. En effet, si nous ne cherchons pas de formule alternative, il est impossible d'envisager un bon maintien du centre. En Espagne, la taxe sur l'immobilier que paient les Sévillans ne suffit pas. C'est une illusion, il faut chercher des formules alternatives et imaginatives. La taxe doit être allouée à un but précis. Je pense qu'il doit y avoir un pourcentage pour la réhabilitation de notre patrimoine historique, un pourcentage pour la promotion de l'image de la ville à l'extérieur, afin de valoriser son secteur touristique, ce qui est très important. Et je crois même qu'un petit pourcentage de cette taxe touristique devrait revenir à tous les coins des quartiers populaires.
Voilà, on entendait à travers ces différents extraits de discours politiques ce qui fait la spécificité de l'Andalousie, à la fois en termes d'opportunités mais aussi de contraintes, et c'était particulièrement prégnant dans le tout dernier extrait. Nassima Baron, avant d'aller dans le détail de la façon dont finalement l'Andalousie a envisagé le tourisme aussi comme levier de développement économique, il faut nous aider à comprendre déjà la spécificité économique et géographique de cette région. C'est une des plus grandes d'Espagne, environ 87 600 km². Elle est située tout au sud du pays, donc elle a accès en soi à la mer, mais pas toutes ses villes de fait. Et puis, il s'agit évidemment d'une des 17 communautés autonomes espagnoles. Que pèse aujourd'hui l'Andalousie au niveau national, à la fois économiquement, mais aussi politiquement?
Ah, ça fait beaucoup de questions et ça fait beaucoup de choses sur lesquelles je voulais réagir. L'Andalousie, 87 000 km, c'est assez abstrait. Écoutez, c'est presque aussi lourd que la Catalogne en démographie. Donc, ce sont les deux grandes régions en termes de peuplement. C'est un territoire largement agraire jusqu'au début du XXe siècle, avec aussi un problème de rapport à la terre, hein, et donc de minifundia et de latifundia, un système aussi qui est marqué par des traits Comment vous dire, des traits qu'ils rapprochent plutôt au passé qu'ils le font entrer dans la modernité. Et donc c'est à la fois une réalité, mais ça devient assez vite un mythe. Un mythe sur lequel le tourisme va jouer, c'est-à-dire oh, l'Andalousie, mais c'est l'Espagne, mais c'est un petit peu les Maures, c'est un petit peu l'Afrique du Nord, c'est un petit peu l'Afrique en Europe, c'est un petit peu les Gitans, et puis après, bon, beaucoup de choses partent. Donc il y a cette Andalousie réelle et cette Andalousie mythique qui s'appuie en fait sur des réalités d'un peuplement, d'une inégalité sociale importante et criante, d'une constitution urbaine qui a beaucoup changé parce que ces villes ont connu une croissance récente. On parle de forte croissance touristique, mais il y a eu beaucoup de paramètres liés au retard socio-économique en Andalousie jusque dans ces années 1990 où des grandes décisions ont été prises et on en reparlera. Et à partir de là, en Andalousie, comme finalement dans les autres grandes régions touristiques espagnoles, on finissait sur la saisonnalité tout à l'heure. Mais en fait, on a inventé le tourisme urbain, on a commencé à parler de tourisme urbain, à promouvoir la ville comme destination, quand, entre guillemets, dans les années 80-90, les plages ont été saturées. Donc ça a été l'ouverture d'une sorte de capacité supplémentaire d'accueil de visiteurs, plus la possibilité d'une désaisonnalisation. Quand on fait le musée Guggenheim, bon, on se dit ça sera un produit 12 mois sur 12. Il n'y a aucune raison qu'un musée soit plus visité l'été que l'hiver. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à beaucoup plus articuler ville, patrimoine bâti, patrimoine tout, au sens large, et puis un tourisme finalement, alors, pas pour les idiots qui bronzent, mais voilà, avec de l'action, avec de la consommation qui fait sens, avec des gens qui viennent chercher gastronomie, culture et compagnie. Bon, donc une espèce de tourisme un petit peu au-dessus, ce qui permet de faire des prix au-dessus dans des hôtels plus neufs, plus récents, plus chers. Enfin voilà, voilà comment l'industrie, elle n'arrête pas de renaître. Parce qu'ils utilisent le terme industrie, hein, vous l'avez entendu, ils utilisent ce terme. À partir de là, bon... ce que je dois aussi vous dire, dans ce que j'ai entendu des différents maires, présidents, etc., c'est que l'Andalousie était un bastion du Parti socialiste espagnol depuis la guerre civile, ou enfin depuis très longtemps, et a basculé. L'Andalousie hein, avait été, je pense que les auditeurs français ont entendu parler de Felipe González, par exemple, grand ami de François Mitterrand et qui montre cette entrée de l'Espagne en Europe et un président andalou qui choisit de faire le TGV vers l'Andalousie et pas vers l'Europe. Hein. Il descend son TGV Madrid au sud. Et pourquoi il ne se raccroche pas à l'Europe? Parce qu'il avait besoin d'abord d'accrocher l'Andalousie à l'Espagne, qui vous montre encore le fait qu'il y avait cette problématique de différentiel de développement. Et je termine hein, en disant, et donc aujourd'hui on a des dirigeants partis populaires qui nous disent qu'ils aiment beaucoup la taxe touristique et qu'elle va ruisseler et qu'ils vont faire des choses. Mais globalement, les collectivités dirigées par le Parti populaire font tout ce qu'elles peuvent pour arrêter la mise en place de régulation de la croissance touristique, que ce soit au niveau des municipal, provincial ou régional.
Effectivement, il y a tout un millefeuille.
Donc, voilà, c'est des discours qui sont un petit peu ambigus.
Et on va voir de toute façon comment effectivement se passer cet héritage politique socialiste se confronte de fait aujourd'hui, enfin depuis un tout petit nombre d'années au regard de l'histoire andalouse au Parti populaire et voir ce que ça implique.
L'Andalousie est une terre de reconquête. Le Parti socialiste n'a pas dit son dernier mot. Il a mis une ministre Montero, une proche de Sanchez, vraiment une bras droit de Sanchez, à la tête du PSOE andalou. Donc, il va y avoir sans doute des élections très demandées, très réputées.
Le Parti socialiste vit encore, il faut le préciser effectivement.
Non, mais il prend l'Andalousie comme une terre de reconquête de la gauche.
Ça fait partie de sa stratégie.
Et pas de la gauche style Pablo Iglesias des années 2014, etc. Mais d'un socialisme rénové.
Nassima Barouni, il y a beaucoup de choses dans tout ce que vous nous avez dit, tout ce que vous avez évoqué aussi pour planter ce décor-là à la fois économique, géographique et politique de l'Andalousie. Ce qui est intéressant, Ivan Galland, c'est qu'on entend qu'il y a une image finalement de l'Andalousie qui se diffuse et on a un peu l'impression presque à son insu, on l'a entendu avec Nassima Barouni, cette idée d'Afrique du Nord en Espagne, cette idée d'une forme d'exotisme. Or ça, avant même que ça fasse partie d'une stratégie même industrielle vis-à-vis du tourisme, ça participe à la construction des imaginaires autour autour de l'Andalousie, et ça la sert plutôt aussi en termes de reconnaissance de sa spécificité. Comment cette image-là se diffuse et quel public finalement reçoit et est plutôt sensible finalement à ce genre d'arguments et à ce genre de construction de l'image de l'Andalousie?
Oui, alors tout à l'heure, il a été dit que l'Andalousie était une région agraire, principalement, historiquement. Je voudrais juste revenir précisément sur le cas de Séville, qui a une histoire bien à part dans cette Andalousie inégale, finalement, puisque entre le XVIe et le XVIIIe siècle, Séville, c'est le seul port qui reçoit les marchandises qui viennent des colonies espagnoles. Donc c'est déjà une ville cosmopolite à cette époque-là déjà. Je pense que c'est important. L'imaginaire commence sans doute à se créer à ce moment-là. Il y a des opéras, par exemple, qui se passent à Séville. Le Barbier de Séville, Les Noces de Figaro, etc. Et ensuite, il y a un moment dans l'histoire où l'Espagne, Séville d'abord perd. Ce port, c'est Cadix qui passe, la Casa de Contratación qui régule ce commerce passe à Cadix, et puis ensuite, l'Espagne perdra ses colonies, donc il y a forcément des conséquences sur la ville, sur la région et sur le pays. Est-ce que vous voulez que je fasse un petit historique
ce qui m'intéresse aussi, c'est de finalement, il y a cet imaginaire, vous l'avez dit, à travers les opéras notamment, qui se diffuse a fortiori en France. Aussi, mais ce qui est intéressant aussi, ce que j'ai lu dans vos travaux aussi, c'est que l'Espagne n'a pas toujours bénéficié d'une image très positive et notamment auprès du public français.
Justement, en fait, au XVIIIe siècle, l'Espagne est plutôt considérée, elle est marquée par la légende noire. Si on se place du point de vue français, l'Espagne, c'est l'Inquisition, etc. Ensuite, début XIXe, la guerre d'indépendance, donc Napoléon. Qui souhaite mettre la mainmise sur l'Espagne. À ce moment-là, si on se place toujours du point de vue de la France, il y a une sorte de sentiment de supériorité. Et à l'issue de cette guerre, on va connaître en France plus largement l'Espagne grâce à des produits culturels qui circulent. Des œuvres espagnoles qui circulent en France ou des œuvres françaises qui intègrent des éléments espagnols. Et je pense qu'on peut rappeler que si on connaît l'art espagnol en France au début, dans le premier tiers du 19e siècle, c'est à cause d'une spoliation de 400 œuvres espagnoles qui se sont retrouvées à la Galerie espagnole du Louvre pendant 10 ans. Et donc, à ce moment-là, les Français ont connu l'Espagne. Ça tombait au moment du développement du voyage romain. Et donc à ce moment-là, le voyage d'agrément qui commence et tout cet imaginaire d'Andalousie comme porte de l'Afrique, comme Orient à portée de la main, naît à ce moment-là. Et ensuite, à chaque fois que des produits culturels vont naître, donc j'ai parlé de l'opéra, on peut citer par exemple, dans le cas de Séville, évidemment Carmen, d'abord La Nouvelle de Mérimée en 1845, qui n'a pas un grand succès, qui est ensuite adaptée à l'opéra en 1875, qui n'a pas non plus un succès fou en France à ce moment-là, il faut attendre 10 ans à peu près. Et ensuite, on ne compte plus le nombre de films adaptés de cet opéra. Et donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau support, ça ravive cette image. Jusque dans les années 40, les opérettes de Luis Mariano qui donnent une place importante à l'Andalousie et à Séville. Ben, tous ces produits culturels-là alimentent une image de l'Espagne. Et de son côté, les institutions touristiques qui gèrent la promotion touristique reprennent ces images-là. Donc c'est un dialogue, de dialogue asymétrique parce qu'en fait, les institutions touristiques reprennent ces images stéréotypées à leur compte pour donner aux touristes ce qu'ils veulent voir. Et donc, c'est comme ça que l'imaginaire reste.
Oui. Vous avez mentionné les voyages, notamment, qui alimentent aussi les récits plus tardif, de fait, fait à la suite de cette découverte de l'Espagne, notamment chez les romantiques. Et de fait, l'Andalousie, à plus forte raison, Séville, qui en devient la capitale officielle en 1847, devient une destination de choix pour les Français qui ont le loisir tout de même de voyager. Il faut quand même le souligner. C'est le cas de Théophile Gautier qui, en 1843, publie son voyage en Espagne.
Séville est située sur le bord du Guadalquivir, dans une large plaine. Et c'est de là que lui vient son nom d'Hispalis, qui veut dire « terre plate » en carthaginois. C'est une ville vaste, diffuse, toute moderne, gaie, riante, animée, et qui doit en effet sembler charmante à des Espagnols. On ne saurait trouver un contraste plus parfait avec Cordoue. Cordoue est une ville morte, un ossuaire de maisons, une catacombe à ciel ouvert, sur qui l'abandon tamise sa poussière blanchâtre. Les rares habitants qui se montrent au détour des ruelles ont l'air d'apparitions qui se sont trompées d'heure. Séville, au contraire, a toute la pétulance et le bourdonnement de la vie. Une folle rumeur plane sur elle à tout instant du jour. À peine prend-elle le temps de faire sa sieste. Rien n'est moins varié que ces réseaux de rues, où l'œil n'aperçoit que deux teintes, l'indigo du ciel et le blanc de craie des murailles, sur lesquelles se découpent les ombres azurées des bâtiments voisins. Car dans les pays chauds, les ombres sont bleues au lieu d'être grises, de façon que les objets semblent éclairés d'un côté par le clair de lune et de l'autre par le soleil. Cependant, l'absence de toute teinte sombre produit un ensemble plein de vie et de gaieté. Des portes fermées par des grilles laissent apercevoir à l'intérieur des patios ornés de colonnes, de pavés en mosaïque, de fontaines, de pots de fleurs, d'arbustes et de tableaux. Lorsqu'une femme ou jeune fille passe près de vous, elle abaisse lentement ses paupières, puis elle les relève subitement, vous décoche en face un regard d'un éclat insoutenable, fait un tour de prunelle et baisse de nouveau les cils. La bayadère Amani, lorsqu'elle dansait le pas des colombes, peut seule donner une idée de ces œillades incendiaires que l'Orient a léguées à l'Espagne. Les yeux des peuples du Nord sont éteints et vides à côté de cela. Le soleil n'y a jamais laissé son reflet.
Van Galland, on a tous les ingrédients, on a la recette quasiment parfaite de prospectus littéraire finalement. Alors j'imagine que Théophile Gautier n'avait pas nécessairement l'intention de faire la promotion de l'Andalousie ou de Séville, mais c'est ce qui de fait advient. C'est grâce à ce genre d'écrit aussi que l'image se diffuse avant même que les guides de voyage deviennent finalement une littérature beaucoup plus répandue que ce que c'était à l'époque. C'est aussi à ça que servent ces productions littéraires.
Tout à fait. On a tous les ingrédients, et notamment ce qui a trait aux femmes, en fait, andalouses. Il était question des œillades, voilà, c'est ce qu'on retrouvera dans Carmen, et c'est ce qu'on retrouve dans de nombreux récits de voyage, souvent écrits par des hommes. Et c'est ce qu'on retrouvera aussi dans les guides de voyage et dans la promotion institutionnelle. Tout à fait, cette histoire de dépaysement, de différence espagnole qui sera reprise, comme on l'a dit tout à l'heure, dans un slogan touristique très connu. Et aussi le poids des traditions. La danse, beaucoup, la feria de Séville, qui à la base est une foire, on va dire, agraire, devient... une célébration plus longue et aussi
festive
à la moitié du 19e siècle. La tauromachie, évidemment, et puis la Semaine Sainte, qui est une forme de religiosité que les Français ne comprennent pas vraiment et qui attire beaucoup. C'est vraiment les ingrédients. Il y a le patrimoine architectural, ce qu'on appellerait aujourd'hui le patrimoine immatériel et la population.
Une question se pose tout de même, Nassima Baron, c'est que Séville n'est pas la seule ville hein, de l'Andalousie, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque au sud-ouest de Séville se trouve Cordoue, encore plus à l'ouest se trouve Grenade. Pourquoi c'est Séville qui a concentré toute l'attention?
C'est pas que ça a concentré toute l'attention. D'abord, c'est la capitale, et puis quand vous êtes devant la cathédrale ou devant la Heralda, vous vous dites qu'il y a quelque chose d'assez important. Donc effectivement, à Cordoue, c'est les monastères. Bon, c'est une autre ambiance. Ça peut être très prenant et c'est aussi touristique. Donc dans la constitution d'un imaginaire global fondé sur le voyage en Espagne, comme il y a eu le voyage en Italie. Pas tout à fait à la même époque, mais globalement, le moment romantique qui commence après la Révolution. Enfin, Goethe arrive en Italie et puis il lance aussi, j'allais dire, un certain type de littérature qui va être très très long et sur lequel je dirais qu'il y a ce modèle italien, cette déclinaison espagnole qui produit déjà une spécificité dans laquelle vous me posez des questions sur la sous-spécificité de lieux, de villes, de points forts. Ce sont des choses qui se constituent dans le temps, mais je crois que ce n'est jamais des générations spontanées et Là, je vous fais une comparaison avec l'Italie dans ce rapport à l'étrangeté. Ce sont des vrais tableaux hein, littéraires, c'est-à-dire qu'on parle des femmes, etc. Mais on va aussi parler des couleurs, hein, vous l'avez bien noté, du bâti. Donc, on va vraiment décrire. Donc, c'est un genre littéraire en soi. Je voudrais quand même vous dire qu'il n'y a pas que ça dans le rapport à l'Espagne. L'Italie est une civilisation, et je ne fais pas un cours sur les rapports, la civilisation italienne, la Renaissance et comment nos civilisations ouest européennes se sont rapportées à l'Italie dans la poursuite, effectivement, dans le prolongement d'un ancrage civilisationnel romain, etc. Par rapport à l'Espagne, ce n'est pas tout à fait la même logique, mais je voudrais insister sur ce mouvement romantique, comment il a des racines dans le grand siècle, dans le XVIIe siècle. Vous avez quand même remarqué que le monarque espagnol est un Bourbon, que le XVIIe siècle de Louis XIV est une époque à travers laquelle la cour espagnole, les grandeurs espagnoles, les courtisans espagnols qui arrivent, avec, je voulais dire, une capacité de présentation, vous voyez, ils sont très impressionnants parce que c'est un pays à l'air riche, va déjà beaucoup marquer les esprits français et constituer l'Espagne comme distincte. Et c'est, je pense que c'est sur cette base que là, les romantiques se lâchent, si j'allais dire Gautier et les autres, mais avec pas tout à fait les mêmes référentiels finalement que sur d'autres creusets méditerranéens. On pourrait parler de la Grèce et de Byron, vous voyez. Donc finalement, je remets aussi ça dans un cadre un petit peu plus large.
Et plus européen.
Et plus ancien aussi.
Et qui remonte effectivement dans le temps.
Mais c'est le site de Corneille, hein. Voilà.
Tout simplement, toutes ces références.
Entre autres, le nombre de pièces de Molière où vous voyez qu'en fait, c'est des noms espagnols. Enfin, voilà. On pourrait continuer à réfléchir sur ça.
Et on pourrait multiplier les références.
L'Espagne inspiratrice, oui, de la culture française.
Yvanne Galland, les choses semblaient bien parties pour Séville. Après tout, si on peut remonter dans le temps très long, finalement, de cette image plus globalement andalouse aussi, de cet ancrage très fort dans les imaginaires. Et là, je fais un très grand saut dans le temps pour le coup. Pourquoi avoir abandonné cette stratégie? Pourquoi finalement c'est le modèle sol y playa, comme on le dit depuis le début de l'émission, ce fameux soleil et plage pour la traduction en français? Pourquoi est-ce cela qui est mis en avant après 1936? Pourquoi c'est cela qui est mis en avant aussi dans les années 50, 60, qui participe à l'avènement de ce tourisme de masse plus que le tourisme urbain? Pourquoi est-ce qu'on se dit, voilà, c'est en valorisant le soleil et les plages que l'on va parvenir à véritablement fonder une forme d'industrie touristique?
Alors, je pense que c'est ce modèle-là, Sol y Playa, qui est privilégié dans les années 50-60, parce que c'est celui qui va rapporter finalement le plus d'argent. On est plus dans la quantité que sur la qualité. Alors, même si, en fait, dès le début, dès les années 60, il y a déjà des voix qui s'élèvent pour dire attention, peut-être qu'on mise sur la quantité, ce n'est pas ce qu'on devrait faire. C'est d'ailleurs, en regardant des archives, c'est ce que j'ai trouvé, notamment le directeur de l'Office du tourisme espagnol à Paris dans les années 60, 64 précisément, écrit au ministère du tourisme en Espagne en disant que le personnel de l'Office du tourisme n'en peut plus, qu'il y a trop de monde qui vient demander des informations sur l'Espagne et qu'il faut miser sur un autre tourisme. Donc c'est quelque chose d'ancien, mais c'est une problématique un peu insoluble parce que veulent les touristes étrangers? Des vacances bon marché à la plage, et on parlait tout à l'heure, Nassima Baron parlait d'accès à la propriété dans les années 50. Il y a aussi des Français qui achètent des appartements en Espagne, on en fait la publicité à la télé, et puis finalement les stations balnéaires françaises vont se construire après. La grande mode, c'est les années 60, le Cap d'Agde, les années 70, et c'est un peu en réponse à ce succès espagnol.
Merci, ma baronne.
On parle de spécialisation touristique de territoire, parce que c'est l'époque de la planification soviétique, mais aussi en Europe, hein, de planification quinquennat, etc., avec des décisions très centralisées. Mais on est à l'époque franquiste. À l'époque, il y a Salazar aussi au Portugal qui développe ses plages de manière assez parallèle et avec un petit peu le même bain idéologique. Et si on spécialise des territoires côtiers, de plages, etc., pour y compacter, concentrer quand même les touristes, c'est qu'on veut pas trop montrer le modèle du mode de vie consumériste européen à des populations qui sont encore largement ouvrières, modestes, et il faudrait pas quand même trop contaminer les esprits. C'était plus explicite chez Salazar. Mais dans le franquisme, il y a aussi cette dimension de pas mettre les choses au même endroit. Donc l'idée du tourisme urbain ne les aurait pas effleurées, parce qu'il fallait quand même bien séparer des populations et pas trop que le modèle des uns donne des idées un petit peu trop directes aux autres.
Vous avez parlé de centralisation, de planification. Ce sont effectivement des aspects très importants aussi de la construction de ce secteur touristique et puis de l'avènement, finalement, de ce fameux modèle du tourisme urbain. Mais là, si
apparemment... Et ça, ça passe par les infrastructures.
Exactement.
C'est-à-dire, si vous mettez un hôtel, mais si vous ne mettez pas d'aéroport à côté, vous ne pourrez pas mettre de charter. Et vous ne pourrez pas rentrer dans le catalogue des tours opérateurs néerlandais, suédois ou anglais. Donc en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de l'économie publique pour l'accès, déjà, à ces lieux qui sont d'une spécialisation touristique, mais qui étaient relativement peu. Je dis pas que c'était des déserts, hein, mais enfin, ils étaient des petits ports de pêche, etc. étaient peu habités. Et donc, il faut donner ces conditions d'accessibilité aérienne, terrestre. On y a participé, excusez-moi, mais si la France, c'est pas simplement une destination, c'est un lieu de transit. Je veux dire, vous regardez les autoroutes au mois de juillet, c'est des caravanes de Belges qui descendent sur la Costa Brava depuis 30 ans, 40 ans. Et on est un pays de transit. On a fait la langue de Sienne. Nous, pour ouvrir les Français, pour ouvrir, comme le disait Ivan, le littoral de la côte au Languedoc-Roussillon. Et ça a été raccordé à la Catalogne qui a descendu son autoroute le long des côtes. Et ça vous explique la manière dont on a fabriqué ces destinations dans des zones spécialisées.
Mais Nassima Baron, cette vision-là, on comprend qu'elle est portée effectivement...
Autoroute gratuite.
Voilà, entre autres. Mais voilà, il y a tout un ensemble de paramètres à prendre en compte. Mais que se passe-t-il de fait quand on revient un peu sur cette politique de centralisation et quand de fait la Constitution de 1978 advient, quand de fait il y a un référendum en Andalousie qui devient de fait une communauté autonome, qui prend en charge cette vision-là, cette planification-là, Nassima Baron?
Ah ben, ça donne le POTA, le plan de ordination du Turismo de Andalucía. Ça donne un transfert de compétences de l'État à une communauté qui se constitue évidemment presque comme un État dans l'État, parce qu'elle a de très nombreuses compétences et qui va, je dirais qu'elle prend le relais dans les années 80, mais je ne vois pas... Vous savez aussi qu'à Madrid, c'est l'Organisation mondiale du tourisme. Donc, c'est un petit peu un lieu mondial aussi, hein, des statistiques, des principales destinations mondiales, de l'organisation des grands acteurs institutionnels du tourisme. Donc, c'est l'époque des années 80-90 où vraiment, cette prise de relais vers les communautés autonomes leur donne l'occasion de continuer à planifier. Et peut-être que là, on va arriver sur cette préparation des années 80 qui nous fait arriver à 92, où l'État prend de son côté des infrastructures nationales comme le TGV ou bien un plan aéroportuaire. Et puis, les communautés autonomes relayent avec des infrastructures régionales et un lien très fort avec les lobbies, hôteliers et autres.
Vous avez cité la date de 1992, car effectivement a lieu cette année-là la seconde exposition universelle andalouse, puisqu'il y en avait une première en 1929.
Ibéro-américaine, la première.
Ibéro-américaine, qui marque donc un nouveau tournant, celui donc de ce fameux avènement d'un nouveau modèle du développement du tourisme, cette fois relativement éloigné des plages, mais pas forcément du soleil, pour se concentrer sur les villes. C'est le modèle économique de Séville qui se développe dans les années 2000, au point de générer un certain nombre de mécontentements. On va y venir. Et en 1992, une chanson marque les esprits, interprétée par le groupe Los del Rio.
Séville a un color especial. Séville sigue teniendo su puente, me sigo viendo azar. Me gusta estar con su gente. Séville tiene un color especial. Séville sigue teniendo su puente, me sigo viendo azar. Me gusta estar con su gente. Cariñosa, tan torera y tan gitana, tan morena y tan hermosa. Sevilla enamora al río y hasta San Lucas se va. Y a la mujer de Mantilla le gusta verla pasar. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo viendo azar. Me gusta estar con su duende. Tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo viendo azar. Me gusta estar con su duende.
Vous êtes bien à l'écoute de France Culture, nous sommes aujourd'hui à Séville pour tenter de comprendre comment la planification touristique peut porter l'économie de toute une ville, toute une région et reflète plus généralement la croissance de tout un pays. L'Espagne qui a connu en 2024 des chiffres records de fréquentation touristique ainsi qu'une croissance elle aussi record de son PIB. Nous le disions, les années 90 marquent une nouvelle étape dans la stratégie touristique de l'Andalousie et surtout de Séville qui accueille en 1992 l'exposition universelle.
Dans cette région, qui est aujourd'hui la plus pauvre d'Espagne, Séville a voulu prouver qu'elle était capable d'organiser un événement culturel et technologique très ambitieux en réunissant un nombre record de nations, 110 pays. Séville s'est offert un paysage urbain aux lignes architecturales futuristes synonymes de développement. Sur les 250 hectares de l'île, les architectes du monde entier s'en sont donnés à cœur joie, quitte à offrir au public un ensemble parfois cacophonique où les lignes souvent se confondent. Certains pavillons, heureusement, imposent leur beauté et le succès de la Hongrie prouve que l'imaginaire se nourrit autant aujourd'hui du merveilleux que de velléités modernistes.
Si les prix trop élevés font grincer des dents, c'est que l'Expo 92 et son pendant, Cartuja 93, la zone de développement qui succédera à l'Expo, auront coûté à L2 55 milliards de francs français, dont un bon tiers pour les infrastructures, 7 ponts, un aéroport, une gare des autoroutes qui désenclavent l'Andalousie. Pas question évidemment de rentrer dans ces fonds, et pour répondre à toute critique, Expo 92 explique que c'est l'Espagne qui gagne. Antonio Quijano, de la direction de l'Expo.
L'exposition a fonctionné un peu comme une excuse.
Ici, l'expo a marché comme une excuse. Elle a coûté très cher, oui, mais il faut dire aussi que les investissements prévus pour les 10-15 ans à venir se sont faits en 5 ans. En Espagne, on dit qu'il ne pleut jamais assez au goût de tout le monde. Les autres Andalous aussi se demandent pourquoi Séville a tout reçu alors qu'à Malaga ou Almeria, les besoins sont importants. Pourquoi un train à grande vitesse alors qu'il y a encore des trains qui datent presque du siècle dernier et qui roulent toujours? Tout ça, c'est vrai, mais on a aussi le sentiment que justice a été rendue. Certains disent que c'est une œuvre pharaonique, fruit de la mégalomanie du président du gouvernement. C'est une intéressante théorie, mais il faut voir la réalité. C'est qu'une région d'Espagne si délabrée, si abandonnée, est maintenant capable de se mesurer au reste de l'Espagne, au reste de l'Europe. Et ça, c'était impensable avant.
Sur les murs de Séville, fraîchement repeints, on peut lire Expo 92, Paro 93, chômage 93. Et pour José Antonio, qui est balayeur à l'expo, le chômage est bien pour demain.
Évidemment, nous autres, on va se retrouver à la rue. Dans mon secteur, nous sommes 500. Certains vont rester pour assurer le nettoyage, mais la majorité sera à la rue. Personnellement, je n'ai pas peur, car j'ai des pistes pour plus tard, mais beaucoup de mes collègues sont inquiets.
Côté sévillan, on se veut toutefois plus confiant. 17 grandes entreprises ont déjà choisi de rester, ont déjà dit oui à Cartuja 93. Antonio Quijano.
La compagnie Siemens, la compagnie Fujitsu, IBM...
Siemens, Fujitsu, IBM restent et vont faire de la recherche. IBM, par exemple, pense installer un centre de recherche sur la traduction automatique, une machine qui traduirait automatiquement d'une langue à l'autre. Et en plus, les contrats signés par ces entreprises sont de 40 ans. Une fois qu'IBM a décidé de rester par contrat, il sait qu'il ne pourra pas quitter le Cartuja avant 2033.
L'Expo 92 attend pour l'instant l'été, les touristes anglo-saxons, mais les caisses de l'État ont été largement sollicitées après Barcelone, après Séville. Reste pas mal de questions. Ce n'est pas encore sûr que Séville et l'Andalousie deviennent la Silicon Valley de demain.
Voilà un ensemble de reportages menés par France 3 et RFI en 1992. Très concrètement, Yvan Galland, pourquoi cette Expo 92 marque un tournant et quelles ont été les retombées? On voit que c'est un gros sujet de doute et d'interrogation dans ces reportages.
En fait, c'est très intéressant de la comparer à l'exposition de 29 rapidement. L'exposition de 1929, c'est une exposition ibéro-américaine qui est plutôt tournée vers le passé colonial de l'Espagne, qui finalement ne reçoit pas beaucoup de visiteurs, mais dont les bâtiments ne sont pas détruits, et qui est aujourd'hui la première attraction, enfin la place d'Espagne est la première attraction à visiter selon TripAdvisor. En revanche, l'Expo 92, ça a été 40 millions de visiteurs, donc un gros succès sur le moment. Par contre, 70% des pavillons ont été détruits juste après. Il n'y avait pas de clous de l'exposition et le terrain immense sur lequel a eu lieu cette exposition, qui est en fait de l'autre côté du fleuve, donc de l'autre côté des monuments, cathédrales, etc., s'est retrouvé un peu abandonné. Il y a des endroits complètement en friche, c'est un peu triste. Certaines institutions ont mis par exemple des archives ou des choses comme ça, mais c'est vraiment un endroit qui a été abandonné et tous les espoirs qu'il y avait, dont on a entendu parler dans le Cartuja 93, tout ça, enfin, de faire de Séville une ville vraiment technopole, européenne, voire mondiale, c'est un peu tombé à l'eau. Mais cela dit, il y a quand même eu des choses qui sont restées, au point de vue, enfin, si on parle des communications, l'aéroport a été agrandi, la gare de train à grande vitesse a été créée à ce moment-là, elle est restée, le théâtre aussi de la Maestranza est resté, et donc ça a été vraiment un moment important, 1992, pour Séville, grâce à ça, mais c'est vrai que c'est un peu retombé comme un soufflet.
Nassima Baron, on voit qu'il y avait tout de même cet espoir que finalement un grand événement potentiellement qu'on pourrait étiqueter de touristique, de fait un grand événement qui attire beaucoup de monde et des retombées dans d'autres secteurs, notamment avec cette idée d'un pôle technologique, on l'entendait notamment via IBM. Est-ce que on a beaucoup parlé de planification touristique, mais est-ce que les pouvoirs publics ont aussi dans le viseur cette idée de planification industrielle au sens plus large, voire technologique? Est-ce que très vite la problématique de la diversification se pose aussi pour une ville et c'est son agglomération comme Séville?
Mais écoutez, je crois que c'est aujourd'hui que s'ouvre le Festival mondial du téléphone mobile à Barcelone, qui est une opération absolument énorme. Je ne peux pas vous dire des chiffres, mais d'abord, on ne les connaît pas encore, mais qui est une opération très importante et qui vous montre que Barcelona 92, Jeux Olympiques, ça a eu des effets. Parce que c'est l'un et ces deux objets ne sont pas totalement disjoints. Donc vous me demandez en quoi un méga-event, comme on dit en anglais, hein, un méga-événement, qu'il s'agisse d'une grande compétition sportive de foot, qu'il s'agisse d'une exposition universelle, qu'il s'agisse des Jeux Olympiques, ça marque un territoire, mais s'il n'y a pas une classe de développeurs économiques, des chercheurs scientifiques qui vont développer, l'informatique. Barcelone a aussi un grand secteur dans le domaine des sciences médicales. Il n'y a pas de relais. Et je pense aussi, par exemple, à l'exposition Océan 98 à Lisbonne, on a fait un pont sur le Tage. Bonne idée. Enfin, je veux dire, ça c'est, je sais pas si c'est une bonne idée, mais enfin, ça a marqué. Ça, c'est des choses qui restent. Mais si vous voulez, j'ai les Jeux Olympiques à d'Athènes en 2004. Finalement, c'est toujours un peu ces mêmes problèmes. C'est des éléphants blancs. Et quand on n'a pas sur ces villes-là, donc c'est des creusets urbains, c'est des creusets locaux. Quand on n'a pas des classes, j'allais dire, un peu créatives au sens Florida, c'est-à-dire qui peuvent se saisir d'un moment, mais le prolonger parce qu'il y a déjà d'autres bases économiques présentes, elles vont pas tomber du ciel. Et c'est un petit peu ce que Séville a vécu. Mais ça renvoie aussi, je pense, à c'est pas simplement l'approche un petit peu descriptive, mais je crois que c'est la manière dont les élites sévillanes, dont les élites andalouses se racontent des histoires de l'accrochage entre le tourisme, la technologie et le ruissellement vers d'autres démarches économiques qui est très intéressante. C'est-à-dire c'est plutôt un révélateur que plutôt quelque chose que je jugerais avec dédain. Non, je le prends plutôt comme un moyen de mieux comprendre le mode de fonctionnement stratégique, même un petit peu cognitif, finalement, de ces décideurs andalous. Et ils en sont venus. Et si vous voulez, il y a des espèces d'étiquettes que l'Union européenne met sur les villes. Et donc, Séville était la capitale du smart tourisme 2023. À l'échelle européenne. C'est-à-dire qu'à force de ne pas avoir de retombées extérieures vers l'industrie ou l'informatique ou que sais-je, en fait, c'est le tourisme qui a fini par être une retombée du tourisme. Excusez-moi, mais je développe en disant on a un certain type de tourisme, on engrange des revenus pour fomenter la next génération de tourisme. Donc là, à travers cette idée du smart tourisme, d'ailleurs on revient sur les traducteurs automatiques, parce que ça sert au tourisme, on revient sur l'intelligence artificielle pour développer une meilleure manière d'identifier des clientèles cibles. Voilà, il y a plein de manières de faire de la data avec le tourisme et d'y appliquer des outils pour, comme toujours, produire une meilleure expérience qui dégage plus de valeur ajoutée, qui s'inscrit dans la chaîne de valeur, qui fait plus d'emplois, et vous avez compris le système. Mais ça tourne sur soi-même maintenant.
C'est ça, c'est un cercle, alors que vicieux ou plutôt vertueux, ça, tout dépend du point de vue de lequel on se place.
Cela dit, ça fait au moins 20 ans que j'entends parler de smart tourisme en Andalousie et à Séville, donc bon,
à voir comment se renouveler. Yvan Galland, on pourrait aussi se dire que finalement, ce qui a participé à la construction du tourisme sévillan spécifiquement, à savoir cette très fort imaginaire qui a été ensuite récupéré à des fins touristiques, fonctionne encore aujourd'hui, puisqu'on le voit notamment en Andalousie. Le cinéma porte beaucoup aussi ce tourisme-là. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps d'en parler, mais sachez que l'Espagne, de façon plus générale, est une terre de tournage, qu'il y a des politiques fiscales mises en place pour cela, et que cela porte notamment cette économie-là. Mais on aura largement l'occasion de reparler de ce que fait le cinéma à l'économie. En attendant, un grand merci à toutes les deux, Nassima Baron et Yvan Galland, d'avoir participé à cette émission.